Alors, vous avez probablement vu ou entendu qu'hier, un roi a été couronné. Mais pour nous qui sommes les enfants de Dieu, il n'y a qu'un seul Seigneur des Seigneurs, il n'y a qu'un seul roi des rois, c'est notre Sauveur, Jésus-Christ. Et il a établi son royaume dans nos cœurs. Nous ne sommes plus donc enfants de cette terre, mais citoyens des cieux. Et nous sommes vraiment heureux de lui appartenir, alors que le nom de notre Dieu soit encore béni et loué ce matin dans la communion des saints. J'aimerais ce matin vous proposer la lecture d'un passage de l'Écriture dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12. Donc je vous invite à prendre avec moi ce passage. 1 Corinthiens chapitre 12, et à défaut de lire tout le chapitre qui nous parle du corps de Christ, Tony a un petit peu évoqué cela ce matin, je me contenterai des versets 12 à 27 inclus. Et avant de lire ce passage, c'est l'apôtre Paul qui, un peu comme à son habitude et avec l'habileté, l'aisance qu'on lui connaît, va utiliser l'analogie du corps humain pour représenter la réalité de l'unité du corps de Christ qu'est l'Église, dont nous sommes les membres, si nous sommes enfants de Dieu. N'est-ce pas ? Alors prenons à partir du verset 12. Peut-être je peux rajouter l'information suivante. C'est que nous allons lire jusqu'au verset 27 inclus et nous trouvons pas moins de 18 fois le mot « corps ». Et indifféremment, avec son aisance, l'apôtre Paul va passer de l'un à l'autre. Et ça, il est conduit par l'Esprit pour nous faire comprendre quelque chose d'important. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout oui, où serait l'odorat ? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». Ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu à disposer le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Voilà, que Dieu bénisse sa parole et nous enseigne encore à travers elle. Voilà, frères et sœurs, d'emblée, en introduction à notre méditation concernant le corps de Christ, concernant l'Église, je pose une question. Si je sais être devenu chrétien, si je sais être devenu un enfant de Dieu en Jésus-Christ, je veux m'interroger. Dans l'Église de Dieu, où est ma place ? Ma place dans l'Église de Dieu, quelle est-elle ? Le verset 27, peut-être pouvons-nous le relire, nous dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Et puis un petit peu plus haut, au verset 18, il dit « Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. » Et donc si Dieu a placé chacun des membres de son corps comme il a voulu, quelle est, frères et sœurs, ma place, votre place dans l'Église de Dieu ? Il faut donc se poser la question à un moment donné. Je constate, alors ça c'est un avis personnel, mais peut-être il est partagé par plusieurs d'entre nous, mais aussi avec le recul des années, c'est une constatation que la réponse très souvent à cette question n'est ni simple, ni évidente à formuler. Très souvent, on entend plutôt dire « Quelle est ma place dans l'Église ?» Je ne sais pas trop. J'en suis pas sûr. C'est pas évident pour moi. J'y réfléchis. Je ne sais pas sûr où j'en suis exactement. Une sorte de flou artistique autour de ça. Pourtant, et ça c'est étonnant, dans la vie courante, mais il n'y a pas cette difficulté de se poser autant de questions. Et au moins dans deux situations de la vie courante. Premièrement, dans mon environnement familial. Je sais, et c'est clair pour moi, que je suis le fils ou la fille de mon père ou de ma mère. Je sais que j'ai ma place dans ma famille. Je sais que je suis le frère de mon frère, le frère de ma sœur, la sœur de ma sœur ou la sœur de mon frère. Il n'y a pas de difficulté. Ma place est là, dans la famille, et je sais dans la fratrie où je me situe. Aucune question à ce sujet. C'est simple. Une deuxième situation est celle du milieu professionnel, par exemple, dans lequel j'évolue encore ou j'ai évolué, si peut-être je suis à la retraite ou dans une autre situation. Et là aussi, je sais bien quelle est la place que j'occupe ou que j'ai occupée. Parce que lorsque j'ai été embauché, on m'a remis un contrat de travail en me précisant quelle était ma place et mon rôle là où le patron me le disait, le souhaitait. Et là aussi, je sais, ou je savais, quelle place j'occupais exactement. Pourquoi alors ? S'agissant de l'Église du Seigneur, nous avons tellement de mal à savoir, frères et sœurs, quelle est notre place et quel est donc notre rôle à jouer dans le corps de Christ qui est l'Église du Seigneur. C'est important, donc, de nous poser, de nous reposer la question. Votre contrat, comme le mien aussi, c'est celui que le Seigneur nous a communiqué et lorsque nous sommes devenus un enfant de Dieu. C'est qu'il nous a placés dans le corps comme il a voulu. C'est le verset 17 que nous avons lu ensemble. Et en nous approchant de lui, nous nous sommes engagés par la foi à le suivre et donc à le servir à la place qui est la nôtre dans le corps de Christ. Puisque Dieu, à travers sa parole, nous dit et nous répète que Dieu a placé chacun de ses membres là où il l'a voulu, pour le bien de l'Église. Mais convenez avec moi qu'il y a donc dans la réalité un décalage entre la réalité pratique traduite par nos vies et le projet de Dieu pour chacun de ses membres qui compose son corps. Et donc, j'aimerais regarder avec vous quelle serait la première étape à franchir pour que, eh bien, je sois celui que Dieu dit que je suis, c'est-à-dire un membre du corps de Christ, tel que Dieu le veut pour moi. Eh bien, la première des choses, pour que je puisse franchir cette étape, si je ne l'ai pas encore franchie, c'est que je sois convaincu qu'effectivement, j'ai une place et un rôle dans l'Église de Jésus-Christ. En discutant avec plusieurs personnes, j'ai constaté que tout le monde n'en était pas convaincu. C'est peut-être bête à dire, mais la première des choses, c'est en être convaincu. Que Dieu me convainc, par sa parole notamment, qu'effectivement, parce que je suis en lui devenu un enfant de Dieu, alors je suis un membre de son corps, qu'est l'Église. Et en particulier de l'Église locale, qui n'est qu'en réalité qu'une représentation géographique de l'Église universelle. Alors, soyons sûrs et convaincus au vu de ce que nous venons de lire dans 1 Corinthiens 12. Que chaque chrétien, sans exception aucune, reçoit de la part de Dieu, dès sa conversion, une place et un rôle à jouer dans son Église. Soyez-en convaincus. La parole l'affirme de manière claire. Alors, c'est vrai que si on doit reprendre l'analogie du corps humain que Paul utilise là comme illustration, eh bien, on s'aperçoit que il y a des membres plus visibles que d'autres. C'est indéniable. Et le corps humain nous le montre bien. Le Nouveau Testament, par exemple, révèle à plusieurs endroits qu'il y a, des listes de rôles, de fonctions différentes, dotées de dons variés, souvent en vue, pouvant donc s'exercer dans l'Église pour son bien, et c'est-à-dire, comme le dit Éphésiens 4, verset 12, pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. C'est vrai. Ces membres-là sont plus visibles que d'autres. Et cela, Dieu l'a voulu pour le perfectionnement et l'édification du corps de Christ. C'est absolument obligatoire. Mais comme le précise 1 Corinthiens 12, verset 29, on n'a pas lu ce verset, mais on peut le regarder, en tout cas jeter un œil. Comme nous précise le verset 29, tous sont-ils anciens? Tous sont-ils diacres, évangélistes, docteurs, prophètes et j'en passe, et des meilleurs? Mais non, bien sûr. C'est certainement dans l'Église de Dieu même une minorité, je dirais. Lorsque dans la première église, il y a eu 3000 et ensuite 5000 âmes qui sont venues à Christ, tous n'étaient pas dans cette situation-là de rôle en vue. Et c'est pourquoi Dieu a tout prévu. C'est-à-dire une place et un rôle pour les membres les moins visibles, mais qui ont tout autant leur importance dans le fonctionnement du corps. À l'exemple des doigts, et des doigts des pieds, verset 15, nous l'avons lu. Et l'apôtre Paul utilise cette illustration à bon escient. Qui sont vraiment importants parce qu'ils apportent à la tenue et à la marche une stabilité absolument nécessaire. Et donc, dans le corps de Christ, il en est de même. Vous savez, se satisfaire d'une seule rencontre par semaine qui dure moins de 2 heures, où l'on chante, prie, apporte son offrande et c'est bien, loué soit Dieu pour cela. Mais si nous nous satisfaisons uniquement de cela pour dire « j'ai fait mon job », cela montre que l'on n'a pas compris ni la pensée, ni la volonté de Dieu pour soi-même. Nous savons, à travers donc ce texte par exemple, mais il y en a d'autres, que nous avons dans l'Église chacun un ministère et un service à accomplir pour le Seigneur. Jésus a fait de chacun, qu'il soit un homme ou une femme, un sacrificateur pour Dieu son Père, nous dit Apocalypse chapitre 1, versets 5 et 6. Et donc, si ce matin vous êtes devenu un chrétien ou une chrétienne, gloire à Dieu. Vous êtes alors membre du corps de Christ, membre de l'Église. Vous êtes devenu un sacrificateur que Dieu donc a appelé à son service. La conséquence, c'est que pratiquement, donc, vous avez une place et un rôle à exercer dans l'Église. Et l'apôtre Paul veut nous le préciser. Prenez avec moi 1 Corinthiens chapitre 3. On est toujours dans la lettre aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3 et je vous propose de le lire ensemble. C'est une seule phrase, une seule phrase. 1 Corinthiens chapitre 3. Verset 9, la conséquence de se savoir membre de l'Église de Jésus-Christ avec donc sa place et un rôle particulier. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, l'apôtre Paul nous dit « On enlève le quart et on lit uniquement la première phrase, tous ensemble, nous sommes ouvriers avec Dieu. » Merci. Pour faire sa volonté, pour suivre ses instructions, pour réaliser ses plans, pour coopérer avec Dieu dans tous les domaines. Frères et sœurs, il faut en premier lieu que nous en soyons convaincus. Que j'ai une place et un rôle dans l'Église de Dieu comme ouvrier avec Dieu et avec les autres frères et sœurs. Pour que l'édifice que Dieu construit à travers son église locale, eh bien, puisse continuer à s'édifier et à le glorifier. Mais alors, je pose une deuxième question. Comment allons-nous pouvoir trouver notre place et servir le Seigneur comme Dieu le veut ? Je suis parvenu à être effectivement convaincu déjà que pour moi, le Seigneur, dans son Église, parce que je suis devenu un enfant de Dieu, eh bien, j'ai une place et un rôle pour le servir avec mes frères et sœurs. Il faut déjà franchir cette étape, frères et sœurs. Et ça, c'est Dieu qui convainc. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui doit convaincre. À partir de là, je peux me poser la question, ah oui, d'accord, je suis convaincu, mais alors, comment puis-je trouver ma place? Comment puis-je savoir quel rôle, ce que je peux faire dans l'Église de Dieu? J'ai pensé à traiter la chose d'une manière particulière. Je pense, je crois qu'il est nécessaire pour un enfant de Dieu d'apprendre dans 4 domaines. Tout d'abord, d'apprendre à penser comme Dieu pense, et non pas penser comme moi je pense. Oh, je suis pas fait pour ça. Je veux bien venir à l'église, mais pas plus parce que je suis pas capable. Non, ça c'est ce que l'on pense. Nous avons à apprendre, frères et sœurs, à penser comme Dieu pense. Mais également, et lorsqu'on pense comme Dieu pense, alors on peut beaucoup plus facilement discerner sa volonté, et en particulier à travers les Écritures. Deuxièmement, nous avons aussi à apprendre à voir comme Dieu voit. Comme ouvriers avec Dieu, nous avons aussi à apprendre à parler comme Dieu parle. Et comme ouvriers avec Dieu, nous avons besoin d'apprendre aussi à agir comme Dieu agit. J'aimerais ce matin me cantonner à la première de ces nécessités. Et puis, s'il y a une prochaine fois, je traiterai le reste. Pour comprendre et occuper la place et peut-être exercer, oui, le rôle que Dieu a prévu pour moi dans son corps, j'ai besoin de partager les pensées de Dieu et apprendre à les partager si je les ignore. Salomon et Ésaïe ont mis le doigt sur le problème. Alors je vous cite quelques versets. Proverbe, chapitre 23, verset 7, nous dit, en parlant de l'homme irrégénéré, il dit, il est, cet homme ou cette femme, comme les pensées de son âme. Et vous savez ce que on est et on devient et on a le comportement de la personne qui a telle pensée. La pensée est donc la source de ce que nous sommes ou de ce que nous devenons, ce que nous faisons. Et donc ici, il est dit, il est comme les pensées de son âme. Ce sont ses propres pensées qui l'ont fait devenir ce qu'il est. Mais en dehors de Dieu, parce que ce sont ses propres pensées. Pas seul du Seigneur qui l'a créé. Et puis, regardez avec moi Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55. Alors, nous révèle quelque chose de juste. Versets 8 et 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et c'est vrai. Mais nous avons reçu, frères et sœurs, le Saint-Esprit pour nous éclairer sur les choses de Dieu et nous faire connaître ses pensées comme ses volontés. Merci pour cela, parce que sans cela, nous serions tous perdus, n'est-ce pas ? Et naturellement, nous ne pensons pas comme Dieu pense. Et si le chef de chantier pense d'une façon et l'ouvrier pense d'une autre façon, vous imaginez ce qui va arriver. Le travail ne va pas se passer comme prévu. Parce que le chef de chantier, lui, souhaite que son ouvrier fasse comme lui pense et comme lui dit. Mais si l'ouvrier se réfugie dans ses pensées, dans sa façon de faire, alors ça ne va pas marcher. Ça, c'est la vie pratique. Et peut-être que dans le milieu professionnel, vous avez déjà vécu ça. Romains chapitre 12, verset 2 nous donne une instruction pour pallier cette carence. Donc le texte nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dit d'une autre façon, frères et sœurs, par la nourriture spirituelle qu'apporte la parole, commencez à penser autrement. C'est-à-dire, commencez à penser comme Dieu pense pour discerner sa volonté. Et ne pas dire, moi je pense comme je veux, et puis comme ça, je prends pas de risque. Non. Une deuxième instruction, on la trouve dans Philippiens 4, verset 8. Prenez avec moi aussi. Philippiens 4, verset 8. Philippiens chapitre 4, verset 8. où l'apôtre Paul dit au reste frère que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Pensez comme Dieu pense, pas comme on veut penser. Parce qu'autrement, ça ne marchera pas. Paul a dit aux chrétiens de Corinthe, dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, « Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Parce que, initialement, nos pensées étaient ailleurs. Et donc, c'est important que nous soyons convaincus par la parole de Dieu que, effectivement, nous avons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu pour comprendre les pensées de notre Dieu et discerner sa volonté pour l'exécuter. Alors, nos pensées, quelles sont-elles souvent? J'en ai recueilli quelques-unes. Par exemple, celle que nous cite le psaume, chapitre 8, verset 5, qui nous dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» On connaît ce passage. Comment ça se fait, Seigneur, que tu aies pensé à moi? Ça, c'est la pensée de l'homme. Mais quelle est la pensée de Dieu? C'est ce qui vient après. Alors, psaume chapitre 8, alors on le lit parce que c'est important, psaume chapitre 8 nous révèle la pensée qui suit, qui est la pensée divine, versets 6 et 7 du psaume 8. « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sur ses pieds. » Et bien que là, le psalmiste parle du Fils de l'homme, de Jésus-Christ, il parle aussi de l'homme. De moi, de vous. Voilà la pensée de Dieu. Alors que la pensée de l'homme a été dire, mais qu'est-ce que je suis moi? Rien du tout. Et à nos yeux, c'est vrai que souvent nous avons très peu de valeur. Et comme le dit l'apôtre Jacques, nous sommes comme une vapeur qui paraît pour un temps et après elle disparaît. Et c'est vrai. Mais aux yeux de Dieu, dans sa pensée, notre valeur, frères et sœurs, est si grande que par amour pour nous, il a payé de sa propre vie. Donc, pour nous racheter à un grand prix qui n'est pas mesurable et pour faire de chacun de nous un membre de son corps et non des chrétiens qui pensent et veulent faire ce qu'ils veulent. Parce que parfois, c'est le cas. L'histoire de David à ses débuts, par exemple, je vais vous prendre deux exemples, deux histoires qui sont belles à lire et qui illustrent le propos que je souhaite tenir. L'histoire de David à ses débuts est significative de la pensée de Dieu et de la manière dont les hommes pensent. Totalement différent. Alors, je vais essayer de résumer la situation. On la connaît, je pense, tous. Samuel doit oindre le prochain roi d'Israël. Alors, il y en a un qui, effectivement, qui a été couronné hier. Mais là, c'est le roi d'Israël qui doit être couronné, oint. Et donc, il demande à Isaïe de lui présenter tous ses fils. Alors, il y en a 7 autour de lui. Et toute la fratrie réunie, et le père avec, pense que loin de l'Éternel est ici. Alors l'évidence apparaît. C'est Éliab. Il est grand, beau, fort. C'est lui. C'est ce que les hommes pensent. C'est ce que tous ont pensé. Dieu dit alors, ne prends pas garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Dieu ne pense pas comme les hommes pensent. Et donc nous avons besoin, à l'image de cette histoire, vraiment à être convaincus que si nous ne nourrissons pas de la parole de Dieu, nos pensées resteront les nôtres et non pas celles de Dieu. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, nous dit la parole, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Et donc là, cela montre que l'Éternel regarde au cœur. C'est sa manière de penser, de voir. Et les sept fils d'Isaïe ont été rejetés à l'examen de passage. Et alors Samuel, certainement conduit par Dieu, là, demande à Isaïe s'il a encore d'autres fils. Et là, je prends le visage d'Isaïe. Ah, mais puisque tu me poses la question, oui, il y en a encore un. C'est le plus jeune là-bas. Sans valeur, là-bas. Il traîne avec ses brebis. Autrement dit, il a comparé ses sept fils avec ce dernier et il pense que celui-là est insignifiant. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Peut-être nous pouvons prendre 1 Samuel, voilà, très vite, deux versets. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Versets 12 et 13, pardon. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Ce qui est important de voir, c'est qu'à partir de là, où Dieu l'avait choisi, alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Et là, cette phrase, mes amis, est de toute importance. Le père, oui, n'a pas considéré son plus jeune fils comme capable, et c'est souvent ce que nous pensons de nous-mêmes. On n'est pas capable de faire quelque chose dans l'église du Seigneur, alors on va laisser les autres s'en occuper. Et pourtant, c'est David que Dieu a choisi. Et à partir de cet instant, le Saint-Esprit était avec lui. Et là, je vais vous dire quelque chose. Dieu n'a pas choisi David, il ne l'a pas appelé en raison de ce qu'il était, en raison de ce qu'il avait, et encore moins de ce qu'il était capable de faire. Et ça, c'est très important à comprendre par rapport à nous-mêmes. Mais Dieu a choisi David sur la base de ce qu'il allait devenir par la grâce de Dieu et par la puissance de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu l'a saisi. Et ça, c'était la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Il allait devenir celui qu'il est devenu par la grâce et la puissance de Dieu. Et peut-être vous vous considérez comme insignifiant, sans valeur, sans possibilité, mais Dieu a décidé de faire de vous un ouvrier avec lui et avec les frères et sœurs pour travailler ensemble à son service. Un autre exemple bien connu, et peut-être ça va préciser encore davantage les choses. Il me semble, en tout cas, ça m'a fait du bien de revoir cette histoire. C'est l'histoire de Gédéon qui s'étend dans le livre des Juges sur 3 chapitres. Le livre des Juges. Alors, je vous encourage à lire l'histoire de Gédéon, parce que c'est aussi très instructif. Voilà un homme également qui a été choisi par Dieu pour délivrer Israël de l'oppression et les délivrer de ses ennemis qui lui voulaient du mal. Et donc, on a cette histoire dans Juges, chapitre 6. Alors, je vous propose de lire 5 versets, Juges, chapitre 6, après Josué. Juges, chapitre 6, versets 11 à 16. Et là aussi, je vais prendre deux visages. Je vais prendre le visage de l'ange et le visage de Gédéon. Versets 11 à 16. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, se battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros !» Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Pensée de l'homme. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Voilà la situation. Mais ne sourions pas trop vite. Car telle est la nôtre très souvent. D'un côté, Gédéon se cache des Madianites et tente de pourvoir aux besoins de sa famille qui est pauvre. Et de l'autre, Dieu qui déclare Gédéon comme un vaillant héros. Oh là là, boum, c'est pas moi ça. Gédéon, au vu de ses faits, de la réalité qu'il voit, alors ne se voit pas du tout, mais du tout comme cet héros que Dieu déclare qu'il est. Au contraire, il se voit, comme le verset 15 nous le décrit, quelqu'un de pauvre, quelqu'un de presque inutile, quelqu'un de petit dans la maison de son père. Et ne sommes-nous pas, mes amis, parfois comme Gédéon? Alors, on va laisser les hommes plus vaillants s'occuper de ce qui doit l'être. Et nous, on va rester là où nous nous trouvons. Pensée de l'homme. Alors, oui, effectivement, il est probablement pauvre, petit à ses yeux et peut-être petit aux yeux des autres. Mais à notre grand étonnement, ce n'est pas la pensée de Dieu. Dieu le pense différemment, il le voit autrement. Il voit autrement par rapport à ce que Gédéon voyait de lui-même ou de ce que les autres pensaient de lui. Dieu le voit comme un homme fort, vaillant et puissant, pour mener son peuple à la victoire. Alors, on peut dire homme fort, vaillant, puissant, mais ce n'est pas ce que visiblement Gédéon était. Mais, c'est là la leçon, mes amis. C'est ce que Gédéon allait devenir dans les mains de Dieu. C'est ça qui est important. Et c'est ça que Gédéon devait apprendre. À penser comme Dieu pense. Et c'est cela que nous-mêmes, nous devons apprendre comme ouvriers avec Dieu. À ne pas penser comme nous pensons, mais à penser comme Dieu pense pour discerner sa volonté et être prêt à l'accomplir avec la force qu'il nous donne par l'Esprit de Dieu. Lorsque Dieu appelle quelqu'un à le suivre et à le servir dans l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas en raison de ce qu'il est ou de ce qu'il n'est pas, mais c'est sur la base de la grâce de Dieu et ce qu'il va faire de lui un homme, une femme transformée, devenue capable par le Saint-Esprit d'aimer son Dieu, d'aimer ses frères et sœurs, son prochain, et servir son Dieu de tout son cœur. Les 12 disciples, alors, on peut prendre également cet exemple, non plus, ils n'ont pas été choisis par Jésus pour ce qu'ils étaient. Parce que la plupart d'entre eux, sinon la totalité, étaient des personnes sans instruction. Alors Jésus aurait pu prendre d'autres personnes, n'est-ce pas ? Ben non. Il a pris ces personnes-là. Mais l'on sait à travers sa parole ce que, sauf un, ce que ces disciples-là sont devenus en Jésus-Christ, dans les mains de Dieu. Parce que l'Esprit a fait d'eux ces hommes-là comme Dieu l'a voulu. Et ils ont été des ouvriers avec Dieu qui ont appris à penser, à discerner la volonté de Dieu, à voir comme Dieu voit, à parler comme Dieu parle et à agir comme Dieu agit. 1 Corinthiens, chapitre 1er, versets 26 et 28. On connaît ce passage, je pense. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 26 à 28. Et cela nous concerne. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. En tant qu'ouvrier avec Dieu, il est nécessaire que nous apprenions en tant qu'ouvrier avec Dieu à penser comme Dieu sur nous-mêmes et sur les autres à l'intérieur de l'Église de Christ. De manière à ce que nos pensées comme celle que propose Philippiens 4:8, hein, que nous avons lu tout à l'heure, puisse se traduire ensuite par des actes de la même nature. Et c'est le verset qui suit de Philippiens 4:8. Je vous le lis. Car si nos pensées restent seulement des pensées, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut que nos pensées se traduisent, nos pensées intérieures se traduisent par quelque chose à l'extérieur. Et donc, Philippiens, chapitre 4, verset 9, nous dit ensuite, une fois qu'il y a cette liste de ce que nous sommes appelés à penser, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Et donc, une pensée juste consiste donc à se voir comme Dieu me voit, c'est-à-dire comme effectivement quelqu'un pour qui le Seigneur Jésus-Christ est mort. Ensuite, comme quelqu'un qui est devenu en lui un ouvrier avec Dieu, équipé pour le service par le Saint-Esprit. Un ouvrier avec Dieu qui pense comme Dieu. Et ça, on a tous à progresser, à l'apprendre. C'est un apprentissage de tous les instants. Pour que, eh bien, nous nous mettions au travail ensemble pour lui. Alors, nous qui avons reçu la vie nouvelle en Jésus-Christ, ne nous satisferons pas d'être des chrétiens, comment dirais-je, du dimanche ? Peut-être. Cherchons plutôt à découvrir, à chercher d'abord, à découvrir et à occuper la place et le rôle que Dieu nous a confié dans le corps du Christ. C'est un bon moyen pour commencer. Alors c'est une suggestion. Si cela n'est déjà fait pour vous, c'est de commencer assidûment à lire la parole de Dieu. Parce que nous y découvrirons ses pensées, sa volonté. Et puis, s'intéresser aussi à la vie de l'église locale. Venir prier avec les frères et sœurs. Participer aux réunions de partage biblique. Peut-être aussi parce que l'église est actuellement offre cette possibilité de se former également dans l'étude de plusieurs sujets dans la parole de Dieu, les samedis matin ou les vendredis soirs, et de persévérer, frères et sœurs, dans ces choses. Et donc à la question qui est quelle est ma place et mon rôle dans l'église, je ne dirai plus « Ah, je ne sais pas, je ne suis pas sûr », mais plutôt « Je sais maintenant que je suis un membre du corps à part entière du corps de Jésus-Christ. Et donc, je suis appelé, j'en suis convaincu maintenant, à ce service que Dieu veut pour moi et que je veux exercer en toute humilité avec les forces que Dieu me donnera pour le bien de son Église. Alors que le Seigneur nous y aide tous. » Peut-être je peux dire que ce matin, nous avons vu ce sujet, voilà, comme ouvrier avec Dieu, le besoin donc d'apprendre à progresser dans la connaissance de la pensée de Dieu et de sa volonté. Mais c'est qu'une partie. J'aimerais la prochaine fois regarder également cette nécessité pour nous de voir comme Dieu voit, de parler comme Dieu parle, d'agir comme Dieu agit. Mais ça, je vous le réserve pour la prochaine fois. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Prions. Et si nous avons le temps, nous chanterons un cantique juste après. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, parce qu'elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Elle révèle d'une manière claire ce que je suis en réalité et le besoin que j'ai de te connaître. S'il y a quelqu'un dans cette salle qui ne te connaît pas d'une manière personnelle, je te prie, Seigneur, par ton esprit, de te révéler à lui, de te révéler à elle, de lui montrer son besoin de pardon de ses péchés, son besoin de venir à toi dans la repentance et la foi. Seigneur, fais ce travail dans le cœur. Et pour nous qui sommes devenus un jour un enfant de Dieu par ta grâce, nous avons effectivement besoin de progresser dans la connaissance et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Non pas regarder à nous-mêmes, penser comme souvent nous pensons, mais apprendre à nous nourrir de ta parole pour discerner tes pensées, ta volonté, et être capable avec ton assistance de te servir avec les forces que tu donnes à chacun. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui as bâti l'Église, pas nous-mêmes. Et donc tu as placé chacun à une place et dans un rôle qui lui est propre, et cela comme tu l'as voulu. Seigneur, convainc chacun de cela et donne la force aussi par ton esprit de pouvoir avancer avec toi et également avec ce désir et cette volonté de travailler ensemble avec les frères et les sœurs à ton service pour le bien de ton Église. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.